Dan Gagnon pour le podcast tout seul, c'est le numéro 47. C'est la première fois, si vous le suivez sur YouTube ou encore sur iTunes, Spotify ou Deezer, on est maintenant sur Deezer, qu'il vous manque un numéro, le numéro 46. Il n'est pas présent parce qu'il n'est pas gratuit, tout simplement. Depuis septembre, je fais deux numéros gratuits plus un numéro exclusivement pour les abonnés de mon Patreon. Patreon, c'est une façon de soutenir les producteurs de contenu. Et donc voilà, deux gratuits par semaine, un qu'il ne l'est pas. Le numéro 46, c'était sur la fameuse phrase « on ne peut plus rien dire ». Ça fait 20 ans que je suis dans le domaine de la communication, 10-12 ans environ que je suis dans celui de l'humour. Et cette phrase que j'entends, souvent par des humoristes d'ailleurs, me détruit l'âme. Je déteste cette phrase, je la trouve absolument sans fondement. C'est comme là, le climat est tendu en ce moment. Pour qui? Pour qui le climat est plus tendu qu'avant? Pour moi, c'est des équivalents de « Make America Great Again ». Une espèce de nostalgie d'une époque qui existait pour une seule tranche de la population. Enfin bref, toute cette conversation-là a lieu uniquement sur le Patreon et toutes les semaines, à partir de maintenant, il va y avoir deux numéros, donc gratuits, plus un pour les abonnés du Patreon. Pourquoi? Parce que mon objectif, c'est de vivre de ça. C'est ça mon objectif. Donc je remercie tous ceux qui sont ajoutés. Il y en a plein qui sont ajoutés cette semaine d'ailleurs au Patreon. Ça m'a fait vachement plaisir. Mathis, Maxime, Benoît et Bernard, merci beaucoup. Et voilà, si vous voulez vous abonner, c'est très simple. C'est patreon.com/Dan Gagnon podcast. Le podcast du jour, lui, a un thème vraiment... j'ai hésité longtemps avant de voir si j'allais vraiment mettre ce titre que vous avez donc vu, Le viol parfait. Et je vous explique d'où ça vient. J'ai la chance d'avoir une vie, encore une fois, qui est suffisamment agréable pour pouvoir m'intéresser à des problèmes qui ne me concernent pas moi directement. C'est ma manière personnellement d'essayer d'être une meilleure personne, d'aller voir c'est quoi la réalité des autres. Et j'ai vraiment pris conscience de quelque chose qu'on m'avait dit tellement souvent. Et vous allez comprendre ce que je veux dire. Il y a des phrases comme ça, tu as entendu un million de fois dans ta vie, puis tout à coup ça clique. Moi j'avais entendu, mais avec les algorithmes, Internet, c'est pas ce grand champ libre que tu crois être parce qu'il y a 6 grands sites qui dominent énormément du trafic, et si toi t'es sur Facebook, Instagram, YouTube, peu importe, dès que tu cliques sur un centre d'intérêt, tout ce qu'on te présente, c'est une déclinaison de ce que t'as déjà choisi, ce qui fait évidemment beaucoup de sens, puisque ce sont des entreprises privées qui cherchent à te retenir le plus longtemps sur leur site. Mais ça fait en sorte aussi, moi par exemple, j'aime bien, dans les accessoires, on va dire, j'aime beaucoup les montres. J'en possède une, mais j'adore regarder des montres. J'adore regarder des vieux slogans de bijoutiers. Je ne sais pas pourquoi. Ça me rend heureux, donc je le fais. Mais avant de cliquer sur des designs particuliers ou des entreprises qui ont des nouveaux designs, j'hésite toujours parce que je me dis, avant de cliquer, est-ce que je veux vraiment voir une pub de cette compagnie-là sur tous mes réseaux pendant 8 ans? Genre, cet été, j'ai hésité, par exemple, au niveau de... Je me suis toujours complètement foutu de la mode. Ça ne m'intéresse absolument pas. Littéralement, je ne change pas mon jean quand il est usé ou quand il ne me fait plus ou quand il est troué. Je change mon jean quand il est illégal. C'est-à-dire quand les trous montrent des parties de mon anatomie qui ne doivent pas être vues en public, c'est là que je le change. Littéralement, c'est ce que j'ai fait les 2 ou 3 dernières fois. Et ben, comme je vieillis, la vie est belle, je sais pas, on m'a fait des remarques. Enfin bref, maintenant j'ai envie, voilà, j'ai un peu plus de temps, donc j'ai envie d'essayer d'être beau. Voilà. Ça me rend heureux quand on me trouve beau. Et donc voilà, des fois j'essaie d'être beau. Et cet été, je faisais du ping-pong mental avec l'idée d'acheter une combi. J'avais vu un truc sur Internet, des combis kaki, c'était assez belle. Je trouvais que ça avait un certain style, je me demandais, voilà. Mais j'ai cliqué une fois sur un site ou une pub, je sais pas, bref, j'ai vu une jolie combi, j'ai cliqué dessus et j'ai eu la pub pendant 3-4 mois et ça finit par me saouler en gros. Donc voilà, on est dans ce monde-là, ce qui illustre vraiment bien ce qu'est donc le pouvoir de l'algorithme. Mais cet été, je sais pas, j'ai réalisé qu'à cause de ça, alors comme on me l'avait déjà dit plein de fois, on me l'avait déjà dit plein de fois. Je crois que je vais cliquer sur une pub pour des cours d'élocution. pourrait être pas plus mal, quoi. Et je me dis, mais en fait, c'est vrai que donc mes idées aussi, je suis conforté dans mes idées parce que je vais cliquer sur des choses qui me parlent et qui me renvoient donc mes propres opinions. Et ça m'a frappé, entre autres, avec le mouvement Black Lives Matter et tout ce qui se passe autour de la pandémie de COVID-19. Parce que j'ai entendu plein de gens que je connais, quand ils ont découvert de nouvelles informations ou quand on discutait, dire « Ah, mais c'est intéressant ça, pourquoi est-ce que personne n'en parle? » Et je me disais mais tout le monde en parle. Personne n'en parle dans ton cercle à toi. Parce que plus tu cliques, plus tu t'enfermes dans une bulle. Puis je me suis dit, mais fuck, je fais la même chose. Et j'avais envie que ce soit justement pour tout ce qui est le mouvement Black Lives Matter ou le mouvement féministe, m'informer, sortir de ma bulle, sortir de ce que des informations qui tournent en boucle devant mes yeux. Et donc, j'ai la chance de connaître des personnes super chouettes, super intéressantes. Donc, je me suis mis à suivre les comptes que elle et eux suivaient. Et donc, ça m'a fait rentrer dans une nouvelle bulle. Et à ce moment-là, c'était toujours un peu fasciné. J'ai l'impression de trouver un nouveau filon. Et donc, j'ai cliqué sur un compte, puis un autre. Puis finalement, tu finis par t'abonner à plein de comptes. Chose que j'ai faite aujourd'hui sur les... si ça vous intéresse d'ailleurs, j'ai réalisé, et je ne savais pas, que j'adore le design intérieur. Je n'avais aucune idée que ça m'intéressait. Mais j'adore les moods et un design intérieur bien réussi, ben c'est un mood que tu installes de façon semi-permanente. Et donc, je me suis abonné à des comptes sur Instagram qui sont des comptes de design intérieur des années 80 et 90-90. Et c'est génial. T'as l'impression de te plonger dans des films, dans des ambiances, ça fait ressortir certaines émotions. Tu vois des styles que tu as eus. Moi, je suis allé aux études au tout début des années 2000, les études supérieures. Et donc, j'avais de la récup, beaucoup. Et donc, tu revois des modèles qui ressemblent à tes chambres, à toi, tes apparts étudiants. Enfin bref, j'ai adoré. Je ne savais pas que ça existait, mais forcément, dès que tu tapes quelque chose sur Internet, ça existe déjà. Enfin, soit. Et donc, cet été, j'ai beaucoup fait ça avec le militantisme féministe. Et ça m'a permis... Et vraiment différentes choses, différents courants, parce que le féminisme, la première chose que j'ai appris, c'est qu'il y a plusieurs féminismes. Et attention, hein, je ne vais pas commencer à essayer de vous expliquer que, genre, en suivant des comptes Insta et en ayant lu 11 articles depuis 2-3 mois, ça y est, je suis un grand spécialiste de la question. Absolument pas, je continue de m'informer, je trouve ça super intéressant. Parce que au-delà des conclusions de ces militantes, ce qui frappe très très fort sur ces comptes qui ont souvent des noms hyper explicites, comme par exemple « Je suis une féministe, je poste des choses féministes ». T'es pas vraiment surpris. Sur la plupart de leurs posts, il y a toujours des réactions hyper premier degré de gens qui se sont sentis agressés, qui ne croient pas la personne, l'agressent, l'insultent. Enfin bref, c'est quand même super violent. Il y a vraiment un rejet du discours féministe chez une partie de la population. Et je me pose la question en disant d'où ça vient, pourquoi il y a ça exactement, et vous allez en avoir marre parce que c'est encore dans le livre White Fragility que je suis en train de lire qui en parle. C'est exactement ce côté-là de je vois la conclusion de quelqu'un qui a une somme de données et d'expériences pour produire cette conclusion. Et comme ma somme de données et d'expériences diffère, je juge que sa conclusion est erronée. Ce qui est complètement idiot. Le réflexe, ça devrait être de dire « OK, sur quoi est-ce que tu te bases pour dire ça? Oh mon Dieu! » Et en tant qu'homme, il y a quand même quelque chose qui devrait vachement être un phare dans la nuit. C'est quand le mouvement MeToo est arrivé de réaliser que 100% des femmes de ton entourage avaient au moins 10 histoires désagréables où elles se sont senties oppressées, opprimées, harcelées, énorme guillemets, au mieux. Et de dire comme « waouh, ça concerne 100% de la population » avant de nier une réalité que je ne connais pas parce que je ne l'ai pas vue, j'ai choisi de ne pas la voir, j'ai été naïf, je ne pensais pas, je suis surpris, je suis choqué, peu importe, je vais aller m'informer. Et c'est ça que j'essaie de faire, justement, au lieu de m'attarder sur les conclusions. Ces contes sont fantastiques, c'est plein de pour beaucoup, de, moi je suis principalement, donc ce sont des femmes qui m'ont appris déjà tout un nouveau vocabulaire. Il y a au moins genre 10-12 mots ou 10-12 nouveaux concepts que j'ai genre appris, que j'ai dû intégrer. C'est fascinant. T'as quelques hommes, t'as des travailleurs du sexe, t'as des non-binaires, et ça permet vraiment de, moi, d'être confronté à des nouvelles choses. Genre, et je suis pas mieux, hein. J'en ai parlé avec mon épouse. Le premier comme rejet automatique que j'ai ressenti, c'est un conte, et malheureusement, je me souviens plus c'était quel conte, qui fait toute une story sur un sujet que je trouve intéressant. Et la dernière slide, le dernier post de la story, c'est, et en passant, arrêtez de corriger mes fautes d'orthographe, c'est hyper classiste. Je sais même pas si on dit classiste ou classiciste. Donc, je suis déjà désolé. Et je me dis, genre, mais putain, c'est quoi ce truc? Et je me suis surpris moi-même, je me suis regardé genre réagir en disant comme, OK, donc vu que c'est un concept auquel moi je n'avais jamais pensé, mon premier réflexe, c'est de rejeter ça et de dire que c'est débile ou que ça va trop loin ou que ça exagère ou que c'est des excuses. Et j'ai la chance d'avoir, moi, une personne en laquelle j'ai énormément confiance, donc qui est madame, mon épouse. Et je lui dis, tiens, tu penses quoi de ce truc-là? Puis elle me dit, mais elle a tout à fait, genre la personne a tout à fait raison. Qu'est-ce que tu en sais que la personne n'a pas des problèmes d'apprentissage, qu'a pas un problème dys quelconque, qui tout simplement n'a pas eu les mêmes avantages que toi, donc pendant son parcours scolaire, n'a pas pu être soutenu autant que toi. Qu'est-ce que tu en sais que, etc., etc., etc. Puis je fais, mais envie. Ben oui. Et ça, c'est la première étape. La deuxième étape qui m'a marqué, c'est. Il y a un conte que je suis qui s'appelle, je crois, qui s'appelle Paye ta psychophobie. Et un autre s'appelle TDS underscore Grindr. Un travailleur du sexe qui sert de Grindr pour trouver des clients et qui met des screenshots, des posts de screenshots de gens qui ont été très souvent, putophobes avec. Et il y a quelque chose que je trouve difficile. Je veux dire, difficile. Fuck ce que je trouve difficile par rapport aux difficultés que vivent ces gens. On s'en fout complètement. Mais je ne me permets pas, parce que ce ne sont pas des luttes qui me concernent directement et j'ai pas envie d'arriver de faire du mansplaining. Mais il y a un côté où, sur le plan du marketing, il y a des mots, j'en avais déjà parlé, ça, le marketing du militantisme. Et d'ailleurs, je sais pas, avec le recul, je serais curieux de voir si je trouve que j'ai dit beaucoup de conneries, j'espère que non. Ou j'espère que si j'ai dit beaucoup de conneries, j'en dis pas autant cette fois-ci. Et donc, le TDS, donc travailleur du sexe en question, fait une story où il dit, ben, posez-moi les questions que vous voulez, puis il répond aux questions. Et tout à coup, parmi les 20-25 réponses qu'il met, il y a un message, un print screen d'un message de ce compte, donc Pète à psychophobie, qui lui dit, est-ce que tu peux arrêter d'utiliser le terme mytho, s'il te plaît? Et donc, ce compte TDS Grindr répond, ah ok, à peu de choses près, j'ai pas le verbatim, mais genre, pourquoi est-ce que mytho, c'est pas une condition? Et le compte Pète à psychophobie lui répond simplement, c'est maintenant plutôt un symptôme de plusieurs conditions différentes. Et le compte TDS Grindr répond tout simplement, genre, ah ok, merci pour l'information. Je vais partager ça avec les gens qui me suivent. Et je me suis dit, putain, quelle leçon. C'est comme ça que ça devrait se passer tout le temps. Tu sais pas, quelqu'un te dit, tu remercies pour l'information qu'on vient de te donner. Et moi, j'essaie de le faire en silence, mais tous ces comptes-là féministes donc m'ont permis d'apprendre et d'avoir un cours en accéléré de différentes factions du féminisme, I guess, on peut dire. Et c'est super. Et ça me permet d'arriver au sujet donc de ce podcast, qui est le viol parfait. Et le compte en question, il s'appelle féministe.révolution. Donc si vous voulez aller suivre, c'est intéressant. Et je trouve que, voilà, il n'y a pas de mauvaise démarche, de bonne démarche. Chacun fait sa démarche. Et la démarche de ce compte, c'est entre autres justement de travailler pas autant sur les conclusions, pas toujours sur les conclusions, mais parfois juste sur la quantité d'informations. Je crois qu'elle en est à 127, 128 témoignages. C'est simplement des témoignages anonymes de gens qui racontent un épisode de harcèlement, d'agression sexuelle, de viol, de violence. Et c'est raconté d'une manière tellement... J'essaie de choisir mes mots de façon délicate, là, mais... Je veux dire, normal? Voilà. C'est juste comme, ah, OK, bon, ben, j'ai tel âge, il m'est arrivé telle chose à tel moment. Et c'est d'un... La somme, je veux dire, l'accumulation de témoignages rend la chose d'un... d'une tristesse parce que d'un commun tellement répandu et ce qui, moi, m'a touché beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ces choses-là, c'est que je comprends qu'avec le mouvement MeToo, t'as beaucoup de gars qui sont éparqués des nus, moi le premier. Tu penses que tu sais, mais tu sais pas, en fait. Tu sais pas, tu l'as pas vécu. Si on faisait un sondage et on demandait aux mecs à quel âge les filles se sont fait sexualiser pour la première fois, toutes les filles qui, les femmes qui, filles, femmes qui écoutent ce podcast, si je vous demandais, je faisais juste un post et je mettais à quel âge et qu'il y a que les gens qui écoutent le podcast qui me répondent, c'est scandaleux, triste, horrible, tout ce que tu voudras. Le minuscule âge à laquelle, auquel ça a l'air d'arriver en premier. Et donc, je ne suis pas étonné que les mecs débarquent. Mais est-ce qu'ils m'offrent profondément, genre, rendu triste en lisant les témoignages? C'est qu'à partir d'un certain nombre de témoignages, tu en as énormément qui commencent par... « Ah, ce qui m'est arrivé, je pensais que c'était normal, je pensais que c'était rigolo. » Ou souvent, c'est « Ce qui m'est arrivé est moins grave que ce que j'ai lu, mais... » Et les personnes, les filles, les femmes racontent des horreurs de choses qui sont dans ma tête de naïf protégé dans une bulle, me semblait impensable ou rare ou quoi que ce soit. Et au lieu de dire « Il y a un problème de sexisme systémique, d'oppression de la femme. » Des fois, j'ai juste envie de prendre la boîte avec les témoignages de quelques personnes, le donner à quelqu'un qui est anti-féministe, parce qu'il y en a encore qui se revendiquent, pour moi, c'est une identité, et lui dire, voici des témoignages. C'est quoi la conclusion que toi, tu tires? Parce que c'est arrivé à toutes les femmes, apparemment. Enfin bref, et juste le fait de... Je trouve que c'est une dose saine dans ton feed d'actualité. Vraiment, je vous le recommande tellement fort. Donc c'est féministe, encore une fois, point révolution. Moi, je ne suis pas témoin de ce genre de choses-là dans la vie que j'ai. Je veux dire, j'habite dans mon sous-sol, dans une ville perdue au Canada. Je veux dire, si je suis témoin de sexisme, c'est parce que j'ai fait de la merde avec mon épouse. C'est à peu près la seule manière d'en être témoin dans ma vie de tous les jours. Je sors pas de chez moi. Et donc, de le rappel que c'est le quotidien, je veux dire, c'est pas normal dans le sens que ça devrait être normal, mais c'est le quotidien habituel, voilà. Pour beaucoup de gens, c'est sain de te faire gifler le coin de la gueule pour te le faire rappeler, je trouve. Et je suis hyper content de suivre plusieurs de ces comptes-là exactement pour ce genre de raisons-là. Et à travers donc voilà tous ces témoignages-là, tout à coup, il y a un travail qui est fait. C'est des gens qui sont bénévoles, encore une fois, et je les remercie de nous transmettre des informations comme ça. Et elle a créé un post qui s'appelle « Le mythe du viol parfait ». Avant de vous en parler, comme ce podcast finalement est basé énormément, voire à peu près exclusivement sur le travail de cette personne, je lui ai envoyé un message en lui disant « Écoute, merci beaucoup pour ton travail. Moi, ça m'a beaucoup aidé. J'aimerais ça le partager dans le podcast que je fais. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas, je ne le ferai pas sans votre accord, dans le sens que si ce que je faisais, j'avais 2 millions de personnes qui followaient et que ça permettait de la mettre ce compte-là en lumière, non, en fait, si, j'aurais demandé quand même. Voilà, enfin bref, je l'ai demandé, je trouvais ça respectueux de ne pas juste reprendre le travail de quelqu'un, même si, encore une fois, je cite que ça ne vient pas de moi, mais je sais pas, ça me semblait être un minimum. Donc, je vous lis simplement les slides et je pense même que je vais m'arrêter juste après, à la fin de la dernière slide, je vais juste m'arrêter, le podcast va être terminé et on se retrouvera au podcast 48. Merci beaucoup, encore une fois, de le suivre. Merci à tous ceux qui, à chaque semaine, s'abonnent sur les différentes plateformes. Je vois les chiffres monter et ça me met tellement en joie. À chaque fois que je regarde les stats à tous les jours et j'envoie toujours un message à mon épouse en disant « Peut-être que tu avais raison, peut-être que ça peut intéresser les gens, peut-être qu'on peut en faire quelque chose. » Et voilà, donc je vous remercie infiniment. Je suis, comme d'habitude, toujours ouvert aux commentaires, aux suggestions, aux critiques, à tout. J'ai envie que ce soit un projet qu'on fasse ensemble. Donc c'est parti. Je répète encore une fois son compte féministe.révolution sur Instagram. Le mythe du viol parfait. Le mythe du viol parfait, c'est cet idéal du viol qui est, ouvrez les guillemets, acceptable, fermez les guillemets, pour la société. C'est un viol qui a lieu tard le soir, au coin d'une ruelle sombre, par un homme inconnu fou qui cède à ses pulsions. Souvent, il menace sa victime avec une arme, un couteau sous la gorge par exemple. Il est aussi majoritairement issu de l'immigration. La victime est une femme respectable, qui est habillée décemment, n'est pas sous l'influence d'alcool ou de stupéfiants. Elle fait tout son possible pour se défendre. Elle se débat, tente de crier, mais n'y parvient pas. Le viol parfait est un viol socialement acceptable. L'agresseur n'étant pas lui-même, il est malade. Le viol parfait est une illusion, un instrument de la société patriarcale. Ce mythe sert à invisibiliser les violeurs, à faire de ce crime une exception, un crime rare qui serait le fait de certains individus avec un profil bien précis. Ce mythe est raciste, validiste et classiste. Le viol n'est pas rare, il est même courant. En France, un viol toutes les 7 minutes. 93 000, 93 000 femmes sont victimes de viols ou tentatives chaque année. Le viol n'est pas perpétré par des inconnus, mais par des proches, des conjoints, conjointes, ex-conjoints, conjointes et membres de la famille. 9 victimes de viol sur 10. 9 victimes de viol sur 10 connaissent leur agresseur. Je fais une mini-parenthèse ici. Je sais qu'il y a un autre compte qui avait réussi à faire changer des informations qu'il y avait sur un site officiel français, parce qu'il y avait des conseils aux victimes. Et un des conseils, c'était de bien verrouiller la porte quand elle rentrait chez elle. Alors que une majorité hallucinante de viols a lieu au domicile de la victime ou du violeur, puisque 9 viols sur 10 est perpétré par quelqu'un qui est connu de la victime. Fin de la parenthèse, je retourne sur le post. Le viol est une domination. Ça, c'est quelque chose qu'on m'avait appris il y a quelques années. J'ai rouvert une autre parenthèse et qui m'avait tellement marqué. Le fait que le viol ne soit pas quelque chose de sexuel. Je parle du haut de ma connaissance fragile. Hein. Corrigez-moi si je me trompe. Annule tellement d'arguments débiles comme « c'est sûr qu'il l'a pas violé, il peut avoir qui il veut. » Ou « pourquoi il a fait ça, il peut avoir qui il veut. » Parce que ça n'a rien à voir. Fin de la parenthèse. Quelqu'une qui viole veut se sentir puissante, imposer sa force, sa domination. Le viol est une arme de guerre. L'agresseur ou l'agresseuse ne cède pas à des pulsions. Il ou elle sait parfaitement ce qu'il ou elle fait. Le viol a lieu dans tous les milieux sociaux. Être issu d'une famille aisée, avoir des diplômes n'empêche pas de violer. Le viol n'est pas majoritairement perpétré par des personnes racisées, des immigrés. Le viol est aussi perpétré par des femmes, même si plus de 90-90% des auteurs de viol sont des hommes. Se débattre ou non n'est pas un critère pour établir si une personne a subi un viol. Personne ne réagit au danger, à la violence de la même façon. Et de mettre la pression sur la victime est tellement loin de la décence que même ton GPS ne va pas la retrouver. Le tenue vestimentaire, le passé de la victime, le comportement, la consommation d'alcool, de stupéfiants, relation de couple, peu importe, le seul coupable du viol, c'est donc le violeur. On est bien d'accord. Une fois que ça est dit, si tu n'es pas d'accord, ce que moi je te demande, je te demande pas en fait, ce que je propose, c'est d'aller fouiller sur chacune des parties pour avoir chacune des statistiques, elles existent. Le pourcentage de parmi les viols qui sont répertoriés, le pourcentage qui mène à une accusation, qui mène à un procès, qui mène à une condamnation, qui mène à une peine de prison. Le pourcentage qui est perpétré par des gens en fonction des classes sociales, en fonction de l'origine. Tous ces trucs-là existent et pointent vers la même chose tout le monde. Et je vous laisse avec uniquement un commentaire sur ce post qui nous vient d'un compte qui a 28 followers et qui follow 11 personnes et qui a fait zéro post, qui nous dit « Faut bien se vider les couilles. » On se reparle au numéro 48.